SBS Radio.
Et tout d'abord, les grands titres de ce mardi. Le Premier ministre australien annonce un financement de 328 millions de dollars pour lutter contre la violence conjugale. Le gouvernement de la Nouvelle-Zélande déclare qu'un Néo-Zélandais membre du groupe Daesh capturé en Syrie sera mis en prison s'il revenait en Nouvelle-Zélande. En Algérie, l'opposition demande un report des élections. Le Premier ministre australien Scott Morrison a annoncé ce mardi un financement de quelque 328 millions de dollars sur 4 ans pour lutter contre la violence conjugale. Le Premier ministre déclare que le pays doit lutter contre sa culture de manque de respect envers les femmes.
It's very focused on changing attitudes of all Australians. Because disrespect of women and children, while it won't always end necessarily in violence, towards women and children. That's certainly where it starts.
La ministre de la Femme, Kelly O'Dwyer, a déclaré qu'il s'agissait d'un investissement très important.
Our approach centres around 3 key themes. Prevention, response, and also recovery. We have zero tolerance for violence against women and girls, and we want girls and women to know that they can be safe in their homes, in their communities, online and in their workplaces.
L'opposition fédérale a réagi. La chef adjointe du Parti travailliste, Tania Plibersek, a fait cette déclaration sur l'ABC.
On first glance, a lot of what has been announced by the government is just the continuation of existing programs, which of course we welcome, but with so much unmet demand, we think that the government could have gone further and joined us with our commitment to 20,000 flexible emergency packages, and our other commitments, such as 10 days paid domestic violence leave, because if you lose your job, as well as being a victim of violence, it dramatically reduces your opportunity to leave a violent relationship.
L'avocat des droits de l'homme, Julian Burnside, annonce qu'il sera le candidat des Verts dans la circonscription de Kooyong, dans le Victoria, face au ministre du Trésor, Josh Frydenberg, qui est le député actuel de la circonscription. Un ancien du Parti libéral, Oliver Yates, a aussi annoncé qu'il sera candidat indépendant. Le gouvernement de la Nouvelle-Zélande déclare qu'un Néo-Zélandais membre du groupe Daesh capturé en Syrie sera mis en prison s'il revenait en Nouvelle-Zélande. Mark Taylor, un ressortissant néo-zélandais, avait apparu dans une vidéo filmée en 2015 où il encourageait des attaques terroristes en Australie et en Nouvelle-Zélande. La première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, a confirmé que Mark Taylor avait été détenu par les forces démocratiques syriennes.
Bringing terrorists to justice is something the government takes extremely seriously. As I've said before, any New Zealander suspected of association with terrorist groups should expect to be investigated under New Zealand law should they return. The police have powers under a number of acts and I am assured they will utilise them.
Deux tornades aux États-Unis dans l'Alabama ont causé la mort de 23 personnes. Plus de 50 personnes ont été blessées. Jay Jones est le shérif de Lee County et déclare qu'il y a aussi des personnes portées toujours disparues.
At this point, our primary focus is assisting those who have lost their homes and certainly their loved ones and concentrating on our search and rescue efforts.
Le président Donald Trump a présenté ses condoléances aux familles des victimes.
I'd like to start by sending our love and prayers to the incredible people of Alabama. Incredible state, unbelievable people, and everyone affected by the catastrophic storms that struck the Gulf States yesterday.
La première ministre britannique Theresa May a déclaré la ville de Salisbury, je cite, « open for business », un an après l'attaque contre l'ancien espion russe Sergei Skripal et sa fille. La Grande-Bretagne a officiellement accusé la Russie d'être à l'origine de l'attaque de l'empoisonnement au Novichok, allégation que la Russie a démentie à plusieurs reprises.
This has been a difficult year for them, and particularly difficult for the immediate victims of the reckless attack that took place on the streets of Salisbury, the use of a chemical weapon, a nerve agent, on our streets. We have been supporting Salisbury. Salisbury, the message they've given me today is this is a city that is vibrant, it's dynamic, it's a wonderful place to come and visit.
L'opposant vénézuélien Juan Guaido, président autoproclamé par intérim, est arrivé hier lundi à l'aéroport international de Caracas, mais il court le risque d'une arrestation pour être sorti du territoire en se rendant il y a une dizaine de jours en Colombie. Reportage Benjamin Delisle pour Radio France Internationale.
Il y a d'abord eu de longues minutes d'attente sous un soleil de plomb, même si beaucoup de manifestants se montraient très optimistes sur le retour de Juan Guaido. Puis c'est vers midi 30 heures locales que l'annonce a été faite. Le député Juan Andrés Mejía prend alors le micro, le sourire aux lèvres, annonce aux manifestants que leur président par intérim a passé la douane. S'ensuit une explosion de joie, beaucoup de larmes, aussi avec la pression, la peur de l'arrestation qui retombe. Certains sont restés inquiets car c'était justement sur le chemin entre Caracas et l'aéroport que Juan Guaido avait été brièvement détenu par les services de renseignements le 13 janvier dernier. Mais tout cela a disparu lorsque la voiture de l'opposant est arrivée. Une foule s'est précipitée pour prendre en photo le convoi. Un moment historique, selon certains. Puis Juan Guaido est monté sur scène. L'émotion était très forte, plus forte encore que le 23 janvier, assuraient certains manifestants. Après le chant de l'hymne national, à la fin du discours et l'annonce d'une nouvelle manifestation monstre pour samedi, les opposants se disaient débordants d'espoir comme jamais et prêts à tout pour suivre ce leader dont la popularité ne cesse de croître ici au Venezuela.
En Algérie, l'opposition demande un report des élections. Hier, lundi, des manifestations d'étudiants ont eu lieu dans différentes villes du pays. Analyse de Amel Boubeker, chercheuse en sociologie à l'École des hautes études en sciences sociales. Elle est spécialiste des transformations contemporaines de l'islam politique et elle est sur RFI.
Et je pense que la question cruciale, elle va même au-delà de la figure de Bouteflika. La vraie question maintenant, c'est de savoir, le régime est en train de gagner du temps, et de savoir quel type de transition contrôlée par le haut ils vont pouvoir encore proposer. Parce qu'il est évident que on ne va pas avoir affaire à une situation révolutionnaire où le peuple demain sera responsable d'organiser sa propre transition. D'ailleurs, je ne pense pas que ce soit la volonté profonde des Algériens. Et cette transition, il va falloir qu'elle s'organise d'abord dans une promesse de non-répression des manifestations, et puis dans le fait d'avoir des garanties, mais très concrètes, sur la transparence des institutions à venir. Et ces institutions de transition, elles ne passent pas du tout, encore une fois, par les élections ou par le parachutage d'un nouveau candidat miracle du système autre que Bouteflika.
Le photojournaliste égyptien, connu sous le nom de Shawkan, détenu depuis 5 ans pour sa couverture de la répression d'une manifestation d'islamistes au Caire, a été remis en liberté hier. Précision d'Oriane Verdier pour RFI.
Sur les réseaux sociaux, des photos de Shawkan circulent depuis ce matin. Il apparaît tout sourire, entouré de ses deux parents. Le soulagement traverse presque l'écran. Voilà plus de 5 ans qu'il n'était pas apparu libre. Arrêté en août 2013, le photojournaliste couvrait alors les affrontements entre forces de sécurité et soutien du président Mohamed Morsi, renversé par un coup d'État quelques mois plus tôt. Ce jour-là, des centaines de manifestants sont morts. Le trentenaire a ensuite été jugé avec plus de 700 autres détenus. 75 ont été condamnés à mort, dont des dirigeants des Frères musulmans. Shawkan, lui, a été condamné en septembre dernier à 5 ans de prison, une peine qu'il avait déjà purgée dans l'attente de son procès. Ce lundi matin, le journaliste a finalement retrouvé la liberté, donc comme 214 autres détenus dans le même cas. Mais il devra observer un contrôle judiciaire strict pendant encore 5 ans et dormir tous les soirs au commissariat de son quartier. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi est au pouvoir depuis 2014. Ancien chef de l'armée, il a mené le coup d'État contre Mohamed Morsi. Aujourd'hui, les organisations de défense des droits humains l'accusent d'avoir instauré un régime ultra répressif.
Le Congrès national du peuple en Chine s'est ouvert dans un contexte de ralentissement de l'économie. Reportage de Stéphane Lagarde pour RFI.
La guerre commerciale avec les États-Unis, la contestation des ambitions extérieures du pays n'ont pas altéré la bonne humeur des 3000 délégués venus de toute la Chine pour assister au grand rendez-vous annuel de la politique chinoise. Sourire à l'arrivée des trains à la gare de Pékin, enthousiasme au pied des passerelles des avions, sourire encore à la descente des bus. Si les défis auxquels est confrontée la deuxième économie du monde semblent glisser sur les députés, ils seront forcément au cœur des discussions de cette deuxième session du 13e Congrès national du peuple. Très attendu, car faisant partie des promesses chinoises lors des négociations avec les États-Unis, un projet de loi sur les investissements étrangers, le texte doit remplacer trois lois existantes. Il devrait mettre l'accent sur la protection de la propriété intellectuelle et empêcher, selon l'agence Chine Nouvelle, les transferts forcés de technologies. Cette réunion des deux assemblées sera aussi l'occasion pour les délégués, au-delà des sourires, de faire remonter les difficultés auxquelles sont confrontées les provinces. Au cœur du rapport du Premier ministre Li Keqiang demain à l'ouverture de l'Assemblée nationale populaire, les moyens de combattre la pauvreté et la pollution, la capitale chinoise étant depuis ce week-end plongée dans un bain de microparticules.
Meng Wanzhou, la directrice financière de Weiwei, porte plainte contre les autorités canadiennes. Ses droits n'auraient pas été respectés lors de son arrestation en décembre de l'année dernière. Précision de Christophe Paget pour RFI.
La plainte a été déposée vendredi, alors que la justice canadienne lançait officiellement le processus d'extradition de Meng Wanzhou vers les États-Unis. Washington accuse l'entreprise Huawei et sa directrice financière d'avoir contourné les sanctions américaines contre l'Iran et d'avoir volé des secrets industriels d'un groupe de télécom américain. Mais la procédure d'extradition peut durer des mois, voire des années, en raison des nombreuses possibilités de faire appel. Et Meng Wanzhou a déjà lancé sa contre-attaque en poursuivant en justice le gouvernement canadien, l'agence des services aux frontières et la police fédérale, pour violation de ses droits constitutionnels lors de son arrestation. Les douaniers l'auraient interrogé pendant plus de 3 heures, officiellement dans le cadre d'une inspection de routine, mais ils en auraient profité pour fouiller ses téléphones et ses ordinateurs afin de récolter des preuves avant son arrestation, retardant pour cela délibérément l'exécution immédiate d'un mandat d'arrêt. Meng Wanzhou doit comparaître ce mercredi devant un juge de Vancouver dans le cadre de la procédure d'extradition. La Chine a indiqué ce week-end avoir protesté auprès des autorités canadiennes, parlant d'un incident politique grave. Les relations entre Pékin et Ottawa se sont considérablement dégradés depuis le début de l'affaire. 2 citoyens canadiens ont été arrêtés en Chine et 1 troisième condamné à mort.
On passe à la météo pour ce mardi en Australie. Perth maximal de 34 degrés, Adélaïde 26, Melbourne 29, Hobart 25, Canberra 32, Sydney 30, Brisbane 29, Cairns 32, Darwin 33, Alice Springs où il fera 38 degrés. Un rappel des grands titres de ce mardi, le Premier ministre australien annonce un financement de 328 millions de dollars pour lutter contre la violence conjugale. Le gouvernement de la Nouvelle-Zélande déclare qu'un Néo-Zélandais, membre du groupe Daesh, capturé en Syrie, sera mis en prison s'il revenait en Nouvelle-Zélande. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.